De retour donc en direct de ce salon du livre au Mans avec les radios de la Frama. J'ai le plaisir de recevoir Caryl Ferré pour son roman policier « Okavango » paru chez Gallimard dans la série Noire. Bonjour.
Bonjour.
Votre roman donc se passe dans une réserve africaine, vous détaillerez peut-être un peu mieux tout à l'heure, donc plutôt en Afrique australe. Des rangers enquêtent sur la mort étrange d'un jeune braconnier. On y suit donc l'histoire de ces rangers qui vont enquêter, mener l'enquête, donc notamment au cœur d'une réserve, le Wild Bunch, tenu par un certain John Latham, qui vit au cœur donc de cette réserve avec des San, les autochtones en fait de la région. Déjà, pourquoi Wild Bunch ? Je connais la réponse, mais...
Un hommage au film de Peckinpah, Sam Peckinpah.
Sorti en 69.
La horde sauvage en français. Moi, j'adore le cinéma américain des années 70. Parce qu'en fait, pour une raison assez simple, c'est que suite à Bonnie and Clyde et Easy Rider, deux de mes films cultes, on va dire, pendant 10 ans, jusqu'à Star Wars, en fait, les réalisateurs ont eu le final cut sur les films. C'est-à-dire que c'est eux qui choisissaient la fin du film et non pas les producteurs. Et du coup, ça a fait des films écolos, sauvages, avant-gardistes, avec des vraies créatrices. Créateur de films. Après Star Wars, il a fait que le cinéma redevienne familial, un peu Walt Disney. Et pour moi, c'était le début de la fin.
Un peu plus édulcoré, peut-être. Oui. Donc, clin d'œil donc, au cinéma. L'idée, comment est venue l'idée du lieu donc, est-ce que j'imagine que vous êtes allé là-bas, vu comment est hyper documenté votre roman. Ça se passe dans ce qu'on appelle la Casa. Ça existe dans la vraie vie, en fait.
Oui.
Réunion de Kavango et Zambie. Expliquez-nous.
Oui, voilà. En fait, bon, c'est une idée de Mandela, en fait. Mais c'est Mandela qui s'est... Comme il y avait pas mal de conflits de frontières dans cette région d'Afrique australe, plutôt que de continuer à se faire la guerre, si on faisait une réserve animalière qui couvre les 5 pays, donc la Namibie, le Botswana, l'Angola, la Zambie et le Zimbabwe, et en éliminant les frontières, en faisant une réserve qui aujourd'hui est grande comme la Suède, les animaux peuvent vivre sur tous ces pays et surtout aller d'un pays à l'autre, parce que bon, les animaux ont besoin de corridors de migration. Et du coup, voilà, ça crée un écosystème unique au monde. Et malheureusement, c'est aussi là où les braconniers viennent se servir.
Mais du coup, c'est une réserve facile à tout est à disposition pour eux.
Ouais, pour ça. Mais bon, heureusement, il y a quand même des rangers. C'est des gens qui sont sur l'anti-braconnage. Au début, je voulais au Botswana parce que les rangers botswanais ont le droit de tirer à vue au moindre soupçon de braconnage. Donc, comme mon rêve quand j'étais petit, c'était quand même de buter des braconniers. Parce que j'aimais les animaux déjà quand j'étais petit.
Racontez quand même l'histoire, parce que je l'ai lu.
Ouais, en fait, c'est toujours la même, il n'y en a qu'une, de toute façon.
Non, mais justement, mais c'est.
Quand j'avais 6 ans, j'ai vu un documentaire animalier où le dernier guépard d'Asie s'était fait tuer par un braconnier. Et à l'âge de 6 ans, ça m'avait absolument révolté. C'est la première fois que j'étais en contact, en fait, avec une forme d'injustice. Parce que voilà, un guépard, bon, à la fois c'est beau, c'est gracieux, c'est un symbole de liberté. Et je trouvais ça absolument révoltant. Et puis j'ai gardé mon âge mental de 6 ans. Donc le lendemain matin, quand j'étais absolument inconsolable, j'ai refusé de manger. Enfin vraiment, je pleurais tout le temps en fait. Et le lendemain matin, j'avais trouvé ma vocation. J'ai dit à mes parents, quand je serai grand, je serai tueur de braconniers.
Puis vous êtes de la génération d'Actari aussi.
Exactement.
On est baigné dans l'univers là du trafic d'animaux et donc du braconnage. J'ai appris via votre ouvrage que le commerce illicite d'animaux sauvages est le quatrième
trafic au monde
derrière donc les stupéfiants, les contrefaçons, le trafic d'êtres humains. C'est dingue ça.
Ouais, c'est vraiment révoltant. Ça dépend des années, mais en gros c'est 30 milliards de dollars, donc il y a vraiment un chiffre d'affaires qui est énorme. Et du coup maintenant c'est des mafias, en fait c'est des mafias organisées, c'est pas le villageois qui va aller avec sa sagaie tuer une girafe, c'est pas ça du tout, hein. Il y a toute une bourse phonique qui vient de Hong Kong et voilà, donc ils amènent des tueurs professionnels, des gens de chez Wagner ou autres, hein, enfin des mercenaires de guerre en fait, qui viennent tuer les animaux parce que ça vaut cher et puis plus, moins il y en a, plus ils sont chers et plus ils sont chers, plus ils sont braconnés. Donc la logique capitaliste veut qu'à la fin il n'y ait plus d'animaux sauvages.
Ouais, c'est ça, c'est le cercle vicieux aussi du trafic et puis qu'on peut observer dans ces réserves. La stupidité aussi justement, c'est peut-être l'utilisation qui en est faite en grande partie, l'utilisation de la kératine, donc les cornes.
Les cornes de rhinocéros. Ouais, aujourd'hui, ça vaut plus cher que l'or, hein, le prix, enfin, au kilo de la corne de rhinocéros. Effectivement, bon, c'est dans la pharmacopée chinoise. C'est soi-disant pour soigner l'impuissance. Alors que la kératine, c'est de l'ongle. Hein. Donc vous pouvez vous ronger les ongles, vous n'allez pas être sexuellement tellement puissant. Mais c'est des croyances, et les gens ont besoin de croire en tout et n'importe quoi, et en l'occurrence, de la queue rhinocéros. Mais quand c'est pas la queue rhinocéros, c'est des griffes de lion ou de tigre, toujours des trucs pour la virilité, soi-disant la virilité, quoi. Donc pour moi, c'est aussi du virilisme, en fait.
Oui. Est-ce que le polar, justement, n'est pas prétexte aussi à dénoncer, en fait, ce qui vous tient à cœur, donc là, les animaux sauvages? Vous nous présentez, donc, dans de très détaillées descriptions, leurs mœurs, leur façon dont est régie, en fait, leur société. Est-ce que c'est un moyen aussi de mettre en exergue les relations entre les animaux et puis par rapport à nous aussi les relations entre êtres humains, faire un parallèle?
Complètement, enfin bon, pour moi, le polar c'est toujours un prétexte, mais j'aime bien moi l'idée de tourner les pages et qu'on veuille savoir, enfin que le lecteur se demande qu'est-ce qui va arriver en tout cas.
Ouais, l'intrigue quand même.
L'intrigue, ouais, c'est un peu un minimum quoi, mais je trouve que donc, le polar est un bon vecteur en fait pour faire tourner des pages. Mais dans les pages, il y a plein de surprises, des choses que j'ai découvertes sur place et que je vais retranscrire dans mon roman. Mais l'idée, c'est comment vivre ensemble, en fait. Quoi. Comment vivre ensemble entre les animaux, les animaux et les hommes ensemble. C'est-à-dire qu'on le voit bien en Europe, dès qu'il y a des loups qui arrivent quelque part, au bout d'un moment, très vite, il faut les tuer. Quand il y a un ours, très vite, il faut le tuer parce qu'il y a trois brebis qui sont... Et bon, ça pose des problèmes, mais par contre, aux Africains, on leur dit vous débrouillez, hein, vous démerdez. Nous, les Africains sont pas très contents, hein, parce que quand on leur dit on va faire des réserves, et puis vous dégagez des réserves parce qu'on va mettre tel et tel animal, vous êtes gentils, les mecs, mais comment vous faites chez vous? Vous êtes incapables de préserver vos espèces et vous allez nous imposer de préserver les nôtres. Donc après, on peut aussi voir Miguel à notre porte aussi.
Le patrimoine de l'humanité. Ça permet aussi de glisser quelques mots, par exemple, pour pouvoir dénoncer en fait la condition des femmes africaines. En quelques phrases, comme ça, c'est glissé parcimonieusement dans votre
ouvrage.
Ouais,
alors c'est toujours difficile de parler des femmes africaines, parce qu'il y a plein de pays complètement différents, mais il y a quand même des vecteurs assez communs. Je prends l'avortement, parce que c'est quand même un truc, un peu la base de la maîtrise de son propre corps. Et en Afrique, selon les années, selon les divers gouvernements, il y a quand même peu de pays où on a le droit, ils sont peut-être 3 ou 4 dans toute l'Afrique à avoir le droit d'avorter. Donc les femmes ne sont pas propriétaires de leur corps. Et bon, c'est le cas en Afrique australe où on en est encore aussi à stigmatiser les femmes parce qu'elles ont leurs règles, elles n'ont pas le droit de faire la cuisine à ce moment-là. Enfin, des trucs qui nous paraissent archaïques mais qui sont toujours vécus où il n'y a pas encore si longtemps en France.
Oui, et puis que ça allait toujours un petit peu aussi quand même. On connaît votre amour de la musique. Est-ce que c'était important, indispensable, j'allais dire, de faire ne serait-ce qu'une petite référence dans votre histoire? Donc moi, j'ai évidemment été interpellée par les paroles de « Who killed Mr. Moonlight » de Bauhaus. Ça dénote aussi avec l'ambiance musicale locale portée plutôt sur le Kwaito.
Oui, c'est ça.
Vous pouvez nous raconter peut-être cette...
La référence à... Bauhaus, c'est ma génération qui était plutôt rock, et comme le personnage de John qui tient la réserve privée, qui est blanc, il a cet âge-là, lui il est pas, il vit aussi un petit peu avec avec sa jeunesse, mais en Namibie la musique c'est plus le, ouais, c'est une sorte de rap reggae slam, c'est un rythme très un rythme local en fait quoi, mais qui est plutôt assez doux en fait, quoi. Même s'il y a des revendications, parce qu'il revendique aussi, parce que d'état le Kavango, qui est le patrimoine de l'humanité, protégé par l'UNESCO normalement, on a trouvé du pétrole, tout à coup c'est moins protégé quoi. Donc il y a beaucoup d'artistes qui se mobilisent aussi pour les causes écologiques et un petit peu pour les femmes aussi. La musique aussi est un vecteur de contestation en tout cas.
Vous êtes allé, parce que du coup je vous ai posé deux questions en une au début, vous êtes allé, vous êtes rendu sur les lieux pour travailler cet ouvrage. Comment ça se passe dans votre écriture? Comment vous allez là-bas? Vous mettez combien de temps à produire en fait votre roman?
Donc avant de partir, moi j'ai fait une documentation qui est assez complète sur l'histoire, la sociologie, qui vit là, l'ethnologie. Donc quand j'arrive dans un pays en général, puis l'histoire politique, je suis assez au courant théoriquement en tout cas des problématiques locales. Mais après je choisis j'ai un premier voyage qui est, on va dire, un peu de repérage, et puis je vois les scènes qui pourraient... intervenir dans le livre. Après, je reste à peu près un mois, et puis après, je rentre en France et j'écris, on va dire, un an et demi en gros, quoi. Une fois l'histoire, elle est à peu près en place, et je sais, j'ai un panorama, en tout cas, assez complet des problématiques locales. Je retourne sur place, mais là, c'est vraiment sur les lieux sur les lieux du livre, en fait, quoi. Et là, je suis une vraie éponge, et là,
voilà, je découvre plein de choses.
Ouais.
Et là, tout augmente, en fait. Puis après, j'ai écrit encore 6 mois, quoi, en gros. Donc, c'est un processus qui dure 2 ans et demi.
Vous avez un projet à venir? Un autre voyage, du coup?
Bah oui, parce qu'en fait, dans l'édition, quand c'est comme au cinéma, hein, quand le roman ou le film sort, ça fait longtemps qu'il est fini. Donc là, je l'ai fini il y a presque 1 an, en fait. Donc, du coup, j'ai eu le temps de partir aux îles Féroé, où il y a des massacres de cétacés et de baleines. Un processus qui s'appelle le grind, en fait, qui est une sorte de pêche à la balle, complètement sauvage, en tout cas. Et ce sera le pendant, on va dire, aquatique, qui a un prétexte pour parler de l'état des océans, en fait. Quoi. Donc, ces deux livres, Gabongo et le prochain, sont un peu un diptyque. À la fois écologique, mais quand même avec pas mal de rage, quoi.
Ça reste un polar.
Ouais.
Caryl Ferré, merci beaucoup. On vous recevait pour Locavango, paru chez Gallimard, série noire.